Chapitre 59.
Va falloir s'arrêter, dit Moram. Il y a encore des flaques de boue sur cette foutue piste et la lumière des phares n'est pas très fiable. Et puis, on a encore toute la journée de demain pour arriver en Île-de-France.
On ne sait pas combien de temps nous prendra la traversée de la forêt,
fit Wolf. Ouais, mais moi, je suis pas un putain de scorpiote. Je vois pas la nuit. Et on ne sera pas plus avancé si j'enlise le camion. À mon avis, il nous reste moins de 100 bornes à faire. Si on part demain matin au petit jour, on y sera sans doute avant le zénith.
Que dit la jauge de gaz?
Elle dit rien qui vaille. La veilleuse d'alerte s'est allumée déjà, depuis un bon moment.
Quelques instants plus tôt, Wolf avait proposé à Ismaïl, dont la tête dodelinait sur la poitrine, de s'allonger sur la couchette. Le vieil homme, pourtant aidé par le scorpiote, avait rencontré les pires difficultés à escalader le dossier de la banquette et à se glisser dans l'étroit espace fermé par le rideau. Les faisceaux des phares se perdaient sur une plaine désolée. L'herbe rase se parsemait de mares scintillantes qui capturaient des fragments de ciel étoilé. Les rares reliefs, collines au sommet arasé, maigres bosquets, monticules de pierre, se dressaient de temps à autre dans la lumière comme des apparitions somnambuliques.
« On gagnerait presque du temps à abandonner le camion et à marcher toute la nuit, »
murmura le scorpiote. « Tu oublies que Solman a une jambe torse, que Khadija est à moitié malade et qu'Ismaïl n'a plus 20 ans, ni même 120. »
« Je ne l'oublie pas, mais dans certaines circonstances, il faut savoir dominer la douleur. »
C'est le genre de truc que t'aurais pu apprendre à ton fils si t'avais pas joué les fantômes pendant 17 ou 18 ans.
Wolf tourna la tête en direction du chauffeur, la lèvre supérieure retroussée en un rictus qui, en bas de sa joue gauche, dévoilait toute sa dentition et le faisait ressembler à un chien.
Tu ne peux pas t'empêcher de juger, hein?
Je ne peux pas m'empêcher de penser au bonheur que j'aurais eu, enfant, si mon père s'était trouvé à mes côtés.
Ta vie n'a pas force de loi. Il est certaines circonstances où l'absence est préférable à la présence, le silence préférable au bruit.
Et t'as jamais eu envie de...
Chaque minute, chaque seconde.
Moram n'osa pas regarder son interlocuteur en face, mais il lui sembla déceler le scintillement caractéristique des larmes dans ses yeux mi-clos. Il aperçut dans le lointain les reliefs d'une ville de l'ancien temps, les lignes brisées de bâtiments ensevelis sous les feuilles luisantes des plantes grimpantes. Il n'avait jamais aimé rouler sur la piste du centre, pas plus que les autres chauffeurs aquariotes qui, pour des raisons indéterminées, peut-être des actes de pillage, des bandes qui avaient autrefois refusé l'éthique nomade, préféraient tous emprunter les pistes de l'ouest ou de l'est.
« Je craignais de perdre ma vigilance. » « Si je révélais mon existence à Solman, »
poursuivit Wolf.
Le manque me tenait en éveil comme la faim, comme la soif. Les pères et les mères du conseil auraient exploité le moindre de mes relâchements pour m'éliminer. Mort, je n'aurais été d'aucune utilité à Solman.
Tu disais tout à l'heure qu'il ne faut rien regretter. Mais des regrets, on n'en a pas à voir grandir son fils sans jamais pouvoir lui parler. Sans jamais pouvoir le serrer contre soi, l'embrasser.
Des regrets, non. De la souffrance, oui. Je suppose que tu ne regrettes pas d'avoir quitté Aura, parce que cela devait être accompli, mais que tu en souffres.
Ce fut au tour de Moram d'avoir les larmes aux yeux. La séparation d'avec Aura le rongeait avec une virulence qui allait en s'amplifiant à mesure que s'allongeaient les distances. La petite sourcière grandissait à l'intérieur de lui, prenait entièrement possession de son grand corps, habitait chacune de ses paroles, chacun de ses gestes. Il avait faim et soif d'elle, de sa peau, de son odeur, de sa voix. Mais aucune nourriture, aucune pensée, aucune larme ne pouvait combler le manque. Il lui restait à souffrir en silence, comme Wolf. À errer au cœur du vide qui se creusait en lui, qui étouffait toute source de chaleur. Toutefois, il ne regrettait pas d'être tombé dans le piège qu'il s'était juré d'éviter. Les relations strictement sexuelles avec les autres femmes, avec les femmes des autres, s'assimilaient à des trucs sordides, à des marchandages qui les avaient spoliés. Ses maîtresses et lui-même. Il acceptait maintenant les risques qu'il y avait à se frotter à l'amour, à ce brasier qui pouvait vous embraser aussi bien que vous calciner et vous réduire en cendres.
« Va bientôt falloir qu'on se pose, » dit-il les mâchoires serrées. « J'ai les yeux qui fatiguent.
Roule encore un peu. Le moment n'est pas tout à fait venu de s'arrêter. »
Moram s'interrogea sur la signification réelle de cette phrase, mais renonça à soutirer une explication aux scorpiotes. Il se concentra sur la conduite, sur le ronronnement du moteur, sur les grincements des amortisseurs, sur les faisceaux des phares qui éclaboussaient les mares tapis dans les herbes. Les gouttes de sueur qui lui tombaient dans les yeux réduisaient encore la visibilité de Solman, assis contre un montant métallique. Il ne distinguait plus la forme grise de Khadija. Elle avait retrouvé son ardeur belliqueuse après avoir paru capituler. Elle l'avait frappé au ventre, puis au cou, avec une puissance et une précision qui l'avaient contraint à battre en retraite. Pendant quelques instants, l'air avait peiné à se frayer un passage dans sa gorge, et il avait cru qu'elle lui avait broyé le larynx. Quant à sa douleur au ventre, elle s'était étendue à l'ensemble de son corps. Elle avait réveillé les élancements familiers à sa jambe gauche et soufflé brutalement son désir. Il se demanda une nouvelle fois si les ponts n'étaient pas définitivement coupés entre Khadija et lui, entre les saints et les hommes. Elle pouvait le tuer désormais, avec la même facilité qu'elle avait blessé Tchak. Il n'était pas de taille à lui résister, à contrer la puissance qui s'exprimait à travers elle et dont il captait le champ monocorde. Il avait commis l'erreur d'insister quand il aurait fallu lui donner le temps de souffler, de désamorcer ses défenses. Mais son propre désir l'avait débordé, l'avait entraîné à précipiter les choses. Il l'entendait de temps à autre pousser un gémissement sourd, prolongé, déchirant. Ils se tenaient à trois pas l'un de l'autre. Mais un abîme les séparait, aux dimensions du vide spatial. L'escato avait creusé entre les siens et les hommes des gouffres infranchissables, les mêmes sans doute dans lesquels avait sombré Catherine. Khadija n'était pas une femme non plus. Elle ne pouvait pas s'ouvrir à l'amour. Elle avait, comme sa sœur, hérité la sécheresse de cœur et de corps. Elle n'avait pas sa place parmi les hommes. Les hommes n'avaient pas leur place parmi les saints. Solman ferma les yeux et dériva sur le cours de ses pensées sans chercher un seul instant à contacter la vision. Le bruit du moteur, les vibrations de la remorque, ses propres battements de cœur, s'estompèrent. Il perdit toute notion d'espace et de temps, se réduisit à un souffle, à un fil, se piqua dans la trame humaine sur le point de s'effilocher, de se disperser dans le vide. Elle survivait à l'intérieur de lui, pourtant, comme elle survivait dans l'esprit et le cœur de Wolf, de Moram, d'Ispahil, des aquariotes restés dans les ruines de Tours, de tous ces hommes et femmes qui avaient échappé au fléau lancé par l'intelligence destructrice. Comme elle survivait dans la mémoire de Khadija. Il suffisait d'un rien pour la reconstituer, pour la consolider, pour lui redonner cette cohérence et cette épaisseur qui avait permis aux hommes de traverser les siècles, de surmonter les guerres, les famines, les catastrophes, les maladies, d'un rien qui renverrait les saints de l'escato à leurs conditions premières. Le doute n'était plus permis désormais. Les saints continuaient d'appartenir à cette trame qu'ils avaient résolu de déchirer. Et tant qu'ils ne l'auraient pas réparée, ils accéléreraient la course de ce temps qu'ils prétendaient arrêter. Ils précipiteraient le refroidissement de ce feu originel dont ils se croyaient les éclats privilégiés. Ne voyaient-ils pas qu'en reniant les êtres humains et les autres créatures vivantes, ils se condamnaient eux-mêmes à la division, à l'anéantissement? Le Jésus du Nouveau Testament, N'avait-il pas déclaré « Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Il ne s'agissait pas d'un moi omnipotent et vengeur, mais d'un moi qui renfermait tous les souffles humains, tous les fils de la trame.
Seulement, il revint à l'obscurité de la remorque, au grondement du moteur, au chaos, aux vibrations métalliques, aux élancements de sa jambe gauche, à la douleur à sa gorge. Ses joues étaient baignées de larmes. Il ne pleurait pas sur lui, mais sur cette terrible méprise de l'humanité, sur ses vies sacrifiées au nom d'une grandeur illusoire.
Solman, est-ce que ça va ?
Il essaya de repérer Khadija au son de sa voix, mais la densité des ténèbres et l'abondance de ses larmes l'empêchèrent de la localiser.
Tu m'as démoli la gorge et le ventre, mais je suis toujours vivant.
Je veux qu'on essaie encore.
Il se rendit compte qu'elle se tenait tout près de lui, immobile, attentive, agenouillée au centre de la remorque.
« Qu'est-ce que ça changera ? »
marmonna-t-il.
« Je ne sais pas, mais j'en ai envie. »
L'escato n'a donc pas tué tout désir en toi.
Elle se rapprocha de lui et lui posa les mains sur les épaules. Il respira son odeur, une odeur forte, grisante de femme. Des tremblements l'assaillirent, identiques à ceux qui l'avaient agité la première fois que Raïma s'était offerte à lui, dans la remorque des rouleaux de tissu.
« Si je te le demande, arrête-toi, »
murmura Khadija.
« Le temps que mes défenses se relâchent, c'est moi qui décide, d'accord ?»
Elle leva la main et lui effleura les cheveux. Il lui abandonna, comme elle le lui avait demandé, toute initiative, n'esquissa aucun geste quand ses lèvres partirent en reconnaissance de son visage. Jouèrent un long moment avec son front, avec ses yeux, avec ses joues. Il percevait chacune de ses crispations, chacun des flots d'antigène qui la secouaient avec la puissance d'une décharge de batterie. Il s'appliqua à endiguer son désir. Se retrouva quelques mois en arrière, dans la remorque des tissus, caressé par Raïma et réduit à l'immobilité par la présence du Solbo. Le plaisir et la mort, ses ennemis indissociables, était à nouveau au rendez-vous. Il sentait parfois s'éloigner le souffle brûlant de Khadija, repoussait l'impulsion qui lui commandait de l'enlacer et de la maintenir plaquée contre lui. Elle l'embrassa, avec retenue d'abord, puis avec fougue, et le goût de sa bouche était si frais, si délicieux, qu'il faillit la rattraper par la nuque lorsqu'elle se jeta en arrière en poussant un hurlement. 10 fois, elle interrompit leur baiser, en proie à une tension intérieure dont l'intensité électrisait la nuit. 10 fois, elle revint à la charge, tremblante, inondée de sueur, s'efforçant à chaque tentative de reculer ses limites, d'enfoncer ses défenses. Elle prit la main de Solman et la posa sur sa poitrine. Il resta interdit dans un premier temps. Puis, il entreprit de lui caresser un sein, avec lenteur, en douceur, attentif à ses réactions, à ses soupirs. Il devança la crise cette fois-ci, retira sa main juste avant qu'elle s'affaisse sur le matelas, attendit patiemment qu'elle se relève, revienne vers lui, l'embrasse, lui prenne la main, la pose sur sa poitrine. Ils progressèrent avec une lenteur qui exaspérait le désir de Solman, mais qui, en même temps, l'exaltait, le magnifiait. Raïma avait tenté de lui enseigner les vertus de l'attente devant le Solbo. Le meilleur des hommages à lui rendre, c'était maintenant d'appliquer la leçon, de retarder jusqu'à l'insupportable le déploiement du plaisir. Il lui semblait que les manifestations de rejet de Khadija s'espaçaient. comme si, chaque fois qu'elle franchissait une étape, l'escato perdait de son influence, de son pouvoir. Vint le temps où elle osa prendre le sexe de Solman dans sa main. Elle ne le lâcha pas quand la vague d'antigène déferla dans son corps et se retira en la laissant dans un état de légère hébétude. Ses défenses s'abaissaient l'une après l'autre, battues par les flots du désir. Vint le temps où elle osa se pencher entre les cuisses de Solman pour cueillir son sexe dans sa bouche, où ses mâchoires s'endolorirent, où elle fut traversée par une envie qui s'évanouit aussitôt qu'elle se manifesta de trancher avec les dents cette chair encombrante et dure. Vint le temps où elle osa s'allonger, les jambes écartées, pour mieux favoriser les insinuations de la langue de Solman dans les replis de sa vulve, où ses frissons de répulsion s'achevèrent en frémissements de volupté. Vint le temps où elle s'ouvrit entièrement, sans retenue, comme si sa mémoire de femme ne lui avait jamais été confisquée. Elle s'emplit tout entière d'un dégoût mêlé de bien-être quand le sexe de Solman allongé sur elle s'enfonça en elle et brisa délicatement son hymen. Vint le temps où il alla et vint en elle, où ses mouvements lents, impérieux, lui arrachèrent des larmes, des gémissements, où la jouissance et la douleur s'imbriquèrent d'une façon telle qu'il lui fut impossible de les différencier. Vint le temps où le plaisir l'emporta sur la souffrance, où ses défenses vaincues l'abandonnèrent à sa nouvelle vie. Le Verbe l'avait répudié. Mais le chant de son corps, même s'il était éphémère, parce qu'il était éphémère, lui parut infiniment plus beau, plus juste, que le cœur des 144 000 saints de l'escato. Le jour se glissait par les nombreuses ouvertures de la bâche. Les trilles des oiseaux s'envolaient avec gaieté dans le silence inhabituel qui entourait la remorque. Le camion s'était sans doute arrêté à la tombée de la nuit. Solman se redressa, se dirigea à quatre pattes vers ses vêtements, enfila rapidement son pantalon et fit coulisser le verrou du haillon de la remorque. Il eut l'impression, en le poussant, d'ouvrir une boîte où était enfermée toute l'odeur de sexe et de sueur de la terre. Il enveloppa Khadija d'un regard tendre avant de sortir. Le camion se dressait au milieu d'une vaste plaine qui ondulait sous les frôlements de la brise matinale. Le soleil ne s'était pas encore levé, des étoiles de traîne s'éteignaient dans un ciel bleu et mauve. Quelques insectes, grosses abeilles, coléoptères aux reflets jaunes ou verts, butinaient les coquelicots qui s'épanouissaient en taches de sang sur les lits d'herbe. Un vol d'oiseaux s'évanouit dans un froissement. L'air tiède réveilla sur la peau de Solman les frémissements latents abandonnés par les mains et les lèvres de Khadija. Ils gardaient de leur affrontement nocturne des marques d'ongles, de dents, ainsi que des traces douloureuses à la gorge et au ventre. Étourdi par la fatigue et le manque de sommeil, il prit une longue inspiration pour reprendre possession de son corps. L'afflux d'oxygène raviva les élancements à sa jambe gauche, et c'est en boitant bas qu'il se dirigea vers l'avant du camion, escalada le marchepied, et la main collée sur la vitre, jeta un coup d'œil à l'intérieur de la cabine. Moram dormait, la bouche entrouverte, la nuque renversée sur le dossier du siège conducteur. Des crissements de pas le firent tressaillir. Il se retourna, découvrit Wolf en bas du marchepied, la chemise entrouverte sur un torse d'une blancheur insolite, le fusil d'assaut coincé entre le coude et la hanche. « Je t'ai pas entendu approcher. »« Même anis de fantôme, » dit Wolf avec un sourire. « Je mettrai sans doute du temps à m'en débarrasser. »«
Vous avez roulé toute la nuit ?»«
Moram est comme les gosses. Il n'aime pas l'obscurité. »« À combien sommes-nous de l'île de France ?»
Wolf glissa la bretelle de son fusil sur son épaule et du plat de la main, lissa la partie de sa chevelure épargnée par sa maladie.
« Je dirais entre 60 et 100 kilomètres. difficile de savoir exactement avec les détours de la piste. Et le compteur kilométrique du camion ne me paraît pas fiable. Wolf dégagea une petite gourde de peau des replis de sa chemise et la lui tendit. « Je suppose que tu as soif. » Solman dévala le marchepied et s'empara de la gourde. « Tu sais, pour Khadija et moi ?» demanda-t-il en dévissant le bouchon. « Rien de ce qui te concerne ne m'est étranger. La mort était présente dans ma vision, mais cette fois, c'était à toi de régler le problème. Je n'avais pas le droit d'intervenir. » Solman but une gorgée d'eau. « Combien de fois es-tu intervenu depuis que je suis né ?» Wolf haussa les épaules. « Je n'ai pas tenu de comptabilité. » Solman contempla l'homme défiguré qui se tenait devant lui et qu'il n'avait pas encore appris à considérer comme un père. Pourtant, à sa manière, Wolf avait été le plus vigilant, le plus présent des pères. Il leur aurait sans doute fallu un peu de temps pour briser le sceau du silence et de la clandestinité, pour apprendre à se comporter comme un père et un fils ordinaire. Mais le temps leur manquait, et il ne leur restait que les non-dits, la maladresse, la pudeur. La portière s'ouvrit et livra passage à un moram au visage encore chiffonné de sommeil. Il salua d'un « Bordel, je me suis empaffé, putain, il me reste presque plus de kawas à l'opri de siège, il m'a cassé les reins », qui semblait indiquer que, non merci, il n'avait pas passé une bonne nuit. Ils mangèrent sur le pouce au pied du camion, rejoints quelques instants plus tard par Khadija, puis par Ismaïl. Le vieil homme n'était pas au mieux, à en croire son allure chancelante, son mutisme et ses yeux éteints. Il refusa l'eau et les fruits secs que lui proposa Moram. Khadija, elle, dévora à peu près tout ce qui lui tomba sous la main. Fruits, céréales, morceaux de viande. Vida presque entièrement une gourde d'eau, accepta même un peu de kawa. Moram remarqua ses cernes, ses lèvres gonflées, la langueur qui estompait l'éclat de son regard, les rougeurs sur le torse de Solman. En conclut que ces deux-là, contrairement à lui, avaient connu une nuit mémorable. Les envia, contint ses larmes lorsque l'image de Hora poignante vint se superposer à celle de Khadija, remonta dans la cabine avec une précipitation principalement destinée à dissimuler son désarroi. « Pour partir maintenant, » maugréa-t-il avant de refermer la portière. « Il reste un bout de chemin jusqu'à l'Île-de-France. » Mais il eut beau tourner la clé de contact, écraser la pédale d'accélérateur, insister, tempêter, le camion refusa de démarrer. Il comprit à l'odeur doucereuse qui montait des bouches d'aération qu'ils étaient tombés en panne de gaz.